Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Et donc vous écoutez l'émission Mare Nostrum, c'est le 34e numéro. Avec Fabrice, bien sûr, fidèle à la technique, et au micro Raymond, qui assure la préparation et la présentation de cette émission. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage un peu extraordinaire, presque, on pourrait presque dire un voyage hors du temps, puisque nous allons parler du regard des voyageurs français sur Venise, entre 1750 et 1850, et on va voir comment ces voyageurs français ont appréhendé le paysage, les paysages et l'eau, qui constituent donc l'élément important de cette ville et qui lui donne son caractère unique. Et donc pour ce faire, nous avons invité Laetitia Levantis. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc docteur en histoire moderne et chercheur associé à l'UMR TELEM de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence, qui fait bien sûr partie de Aix-Marseille Université, associée donc au CNRS. Vous êtes également historienne de l'art.
Oui, tout à fait.
Et passionnée par l'histoire de Venise. Et vous êtes auteur d'un ouvrage issu de votre thèse de doctorat, qui est intitulé, donc je parle donc du livre, qui est intitulé « Venise, un spectacle d'eau et de pierre, architecture et paysage dans les récits des voyageurs français, 1756 ». 1850, ça a été donc édité à Grenoble, chez l'éditeur Elug, E2LUG, dans la collection Italie Pluriel, en 2016. C'est un livre qui a obtenu en 2017 un prix, qui est le prix Édouard Samant, de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, qui récompense les meilleurs travaux historiques sur la Méditerranée. C'est dire si vous étiez destiné à venir dans cette émission, puisque cette émission est consacrée, comme vous le savez, à la Méditerranée. Alors, vous êtes aussi auteur de nombreuses publications parues dans les revues françaises et italiennes sur le thème du voyage à Venise au XVIIIe et XIXe siècle. Il s'agit de questions portant sur la critique de l'architecture vénitienne dans les textes des voyageurs français et plus largement européens, ou de l'émergence d'un tourisme balnéaire et médical dans le centre historique de la ville à l'époque romantique. Vous avez également travaillé plus globalement sur l'Italie et également sur Florence.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, vous êtes quand même donc la spécialiste de quelque chose qui est un peu à la croisée des chemins de l'histoire de l'art, même de la littérature, en Italie, et donc dans ces villes si extraordinaires que sont Florence et Venise. Alors, on va passer donc un moment ensemble et vous allez peut-être commencer par nous présenter un petit peu vos travaux et votre ouvrage dont je viens de parler, la problématique centrale de cette recherche, puisque c'est quand même une recherche, puisqu'il s'agissait de votre thèse.
Tout à fait. Alors, c'est un livre qui se situe, pourrait-on dire, à contre-courant de la somme immense de publications déjà parues sur Venise. Son histoire et ses voyageurs illustres, et il cherche surtout à apporter un regard neuf, se démarquant de la domination qu'exercent les études littéraires sur le thème du voyage à Venise. On ne compte plus les publications sur les voyageurs qui sont du 19e, les voyageurs romantiques, ou même les voyageurs de l'époque de la Renaissance. Alors la période traitée ici, dans ce livre, ne concerne ni l'époque médiévale, ni la Renaissance, mais le 18e et le 19e siècle vénitien. Donc, une période sur laquelle on ne sait finalement en France que peu de choses, ce dont je me suis rendu compte, mis à part quelques clichés. Mais c'est pourtant une période où Venise évolue sur les plans politiques, économiques et culturels, passe par une terrible phase de transition avec la chute de sa République en 1797, puis l'arrivée successive des Français et des Autrichiens jusqu'à son union au Royaume d'Italie en 1866. Pour finalement renaître de ses cendres et entrer de plein pied dans l'ère du tourisme moderne par l'établissement d'une ligne de chemin de fer, puisqu'elle sera reliée à la terre ferme en 1846. Donc, ce que l'on pourrait aussi ajouter, c'est que, bien que les récits de voyage et la littérature des guides forment la matière première à l'origine de ce livre, cette étude ne se contente pas pour autant d'assembler, un catalogue de citations que les voyageurs les plus célèbres auraient pu laisser à la postérité, qu'il s'agisse du président de Brosse ou de Montesquieu au XVIIIe siècle, ou Stendhal, George Sand au siècle suivant. Il n'est pas non plus une monotone compilation, comme on peut en trouver, de quelques-uns des clichés habituellement diffusés par la littérature des voyages sur Venise concernant le carnaval, les fêtes, les mœurs de ses habitants. Bien plus que cela, il se veut un révélateur de la richesse du contenu de ces textes, dont la plupart sont méconnus du grand public. Autour de deux grands thèmes, l'architecture et le paysage lagunaire dans leur rapport réciproque. Et donc, par le biais de l'examen d'une pluralité de sources, ce livre reconstitue la genèse de l'attention à l'élément aquatique et aux transformations du regard sur l'architecture. Donc il met clairement en lumière quelles ont été les mutations au sein de la sensibilité française dans la façon de regarder puis juger Venise entre deux époques.
Oui, c'est ça, vous parlez de la sensibilité. C'est vrai, on est frappé en lisant votre livre par les émotions, votre attachement à mettre en lumière les émotions de ces gens qui viennent à Venise dans ce trajet initiatique qu'on appelle le Grand Tour. Qu'est-ce que c'est le Grand Tour pour nos auditeurs ? Rappelez-nous en deux mots.
Alors oui, alors le Grand Tour est à l'origine un long voyage en Europe, de plusieurs années, souvent, effectué par les jeunes aristocrates, dans le but de compléter une éducation essentiellement livresque, fondée sur les humanités gréco-latines, et aussi acquérir une culture nouvelle, doublée d'une expérience mondaine ou diplomatique. Alors la pratique, qui émerge vers le milieu du XVIe siècle, s'installe peu à peu au siècle suivant et culmine au XVIIIe siècle. Donc le XVIIIe siècle, c'est le siècle d'or des voyages.
Oui, c'est bien cool. Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est un voyage initiatique, en fait. C'est pour gagner en maturité, faire son entrée dans le grand monde et se former aussi un goût pour les arts. D'où l'importance de l'Italie dans le circuit de ces jeunes aristocrates.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, c'est un passage obligé, quoi, pour les gens cultivés.
Ah, c'est un passage obligé.
Tout à fait, oui. Ouais. Et donc, votre travail qui est à cheval, donc, sur deux siècles, qui est entre deux siècles, entre une partie 18e et une partie 19e siècle, et dans un contexte politique. Donc, vous pouvez nous en dire un peu deux mots, vous en avez un petit peu parlé là. Rappelez donc, comment s'est passé ce contexte politique entre le 18e et le 19e, il y a eu quand même, c'est une histoire un peu, comment dire, un peu agitée pour Venise, ce siècle-là.
Oui, j'ai pas choisi la période la plus calme. Alors, Venise s'insère au 18e siècle, donc, dans cette grande tradition européenne du voyage d'Italie. Et on peut dire aussi qu'elle constitue une étape incontournable du fait de sa réputation de ville de la fête et des plaisirs. Mais la Venise qui accueille les voyageurs du Grand Tour n'est plus qu'une survivance dans l'Europe du XVIIIe siècle, notamment et surtout du fait du déclin de sa République, même si elle est encore une capitale commerciale active et d'un état de terre ferme à l'agriculture particulièrement florissante. Donc, puis le coup fatal est porté par Napoléon en 1797, puisque la signature du traité de Campo Formio entre la France et l'Autriche fait basculer cette ville du statut de reine de l'Adriatique à celui de ville soumise aux Français, donc comme je disais tout à l'heure, puis à l'Empire des Habsbourg auquel elle est annexée dès 1815. Et enfin, pour terminer brièvement sur le contexte, l'ouvrage se clôt sur la première moitié du XIXe siècle, où la ville subit d'importantes mutations urbanistiques doublées d'actions concrètes sur le paysage. Et ça, on en reparlera, en perdant son identité insulaire, en quelque sorte, puisqu'elle a été unie à la terre ferme par la ligne de chemin de fer en 1846, on peut dire qu'elle s'ouvre paradoxalement au tourisme de masse, ce qui lui donne un second souffle.
Oui, c'est effectivement, donc cette période que vous avez choisie est une période difficile pour Venise, qui va connaître des difficultés, y compris économiques. Donc, elle va être soumise, elle qui était la reine de l'Adriatique, oui, et même d'une bonne partie de la Méditerranée à certaines périodes de son histoire. eh ben, elle va se trouver donc dans une situation beaucoup plus délicate. Alors, si on rentre donc dans ce regard et ces émotions des voyageurs français, on va donc suivre un petit peu votre parcours et, dans un premier temps, peut-être essayer de savoir comment s'organiser la découverte de la ville. Quand on arrive à Venise dans cette période-là, comment est-ce qu'on y arrive ?
Alors déjà, on arrive après un long voyage en diligence. Si on part de France, alors on traverse toute la France. Puis on arrive en Vénétie. Donc on traverse aussi le nord de l'Italie. Hein. Puis on arrive en Vénétie. Puis ensuite on s'embarque en Burchiello, à Mestre. Enfin, ce qui était, en fait, c'était un arrêt qui se situait à Fusina, à côté de Mestre. Et c'est là qu'on découvre la ville, donc par la mer, donc à l'arrivée en gondole, quoi. Mmh. Mais la première découverte de Venise pour les hommes des 18e et 19e siècles commence en fait dès la période précédant le voyage, au cours de laquelle ils préparent, par le biais d'un large choix de livres, leur séjour dans la ville. Puisque, bon, je peux dire deux ou trois mots sur les sources utilisées, puisque c'est très important. Le voyageur part préparé par des lectures érudites et toutes sortes de récits de voyage, et aussi de guides, mais aussi par un vaste éventail de sources iconographiques qui familiarisent ce dernier avec le visage de la ville. Donc, le voyage est pour la partie essentielle une confrontation entre les différentes lectures et la réalité des villes traversées.
D'accord, donc c'est un voyage qui est préparé. Et finalement, quand les voyageurs arrivent, c'est une comparaison entre ce qu'on a lu dans la préparation, oui, et ce qu'on va voir réellement. Et donc, en attendant de revenir sur ce thème, on va écouter un petit peu de musique de Rossini, donc une musique qui s'appelle « Les gondolières » et qui est un extrait des « Péchés de vieillesse » de Rossini, donc je l'ai déjà dit. Donc ces voyageurs qui arrivent à Mestre ou sur la côte vénitienne. Ils vont prendre le bateau et arriver à Venise. Alors ils arrivent, bien évidemment, à l'endroit central de Venise.
À Saint-Marc, voilà. Tout à fait. Oui, donc c'est un topos au XVIIIe siècle aussi, l'arrivée par gondole vers la place Saint-Marc. Et donc, pour ce qui est du séjour et de l'organisation des visites, puisque ça démarre à Saint-Marc, le circuit traditionnel commence par la basilique, la bibliothèque de Saint-Marc, le palais des Doges, ensuite vient l'ascension du campanile et l'observation du paysage pour tenter de comprendre la topographie vénitienne. Ça, c'est un aspect très important du voyage au XVIIIe siècle, qui s'apparente au voyage pittoresque, en fait. Le plaisir des coups d'œil, donc on monte, on fait l'ascension à pied du campanile pour admirer le paysage. Ensuite vient la découverte de la piazzetta et du spectacle portuaire. Puis les voyageurs se dirigent ensuite vers l'arsenal, le Grand Canal, le Rialto, enfin, et quelques églises et palais des différents quartiers de la ville mentionnés par les guides. Ça ne s'écarte jamais du circuit défini.
Ah, d'accord, c'est très cadré.
C'est très cadré.
D'accord, ok. Et donc ils sont quand ils sont en haut du campanile, vous avez dit que c'est pour essayer de décrypter un petit peu le.
Oui.
Parce que c'est compliqué, Venise. Et donc, on essaie peut-être de comprendre quelque chose quand on est en haut.
Oui, c'est très difficile d'en saisir le cœur, surtout, et les limites. Donc, pour eux, c'est très important, oui.
Oui, moi je sais que... Je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai envie de le dire. Moi, je sais que j'aime bien, plutôt que le campanile, monter au campanile de San Giorgio.
Voilà,
parce que là, on a une vue...
Là, c'est pas pareil.
Ouais, c'est pas du tout pareil.
Oui.
Et on a une vue d'ensemble qui est beaucoup plus intéressante, oui, je trouve, que la vue du campanile, en haut du campanile. Bon, mais c'est mon point de vue, hein. Vous êtes pas... Les auditeurs sont pas obligés de partager. Donc, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle « Le regard des voyageurs français sur Venise ». Alors, bien sûr, c'est 1750-1850. Moi, j'y étais pas à cette époque-là. Mais je suis aussi un voyageur français qui va quand j'entends à Venise. Alors, donc, le circuit traditionnel. Avant ce circuit, alors, il y a quelque chose qui m'a interrogé aussi dans votre livre qui m'a plu. C'est la façon dont vous avez récupéré dans les émotions des voyageurs, la façon dont ils le voient, l'arrivée à Venise, l'arrivée à la piazzetta. Donc quand ils s'approchent de la ville, oui, ils ont des expressions que vous avez relevées. Alors je ne sais pas où je les ai mises. Moi je les ai relevées, mais je ne me rappelle plus.
Ah, il y a toutes sortes de métaphores.
Oui, c'est ça.
Des effets visuels.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de métaphores.
Oui.
De villes qui sortent de l'eau.
Oui, c'est ça.
Voilà,
oui.
De villes qui flottent sur l'eau.
Oui.
C'est ça. Donc c'est assez intéressant. Alors donc, on a ce circuit traditionnel du XVIIIe siècle, donc.
Oui, XVIIIe voilà. siècle.
Et est-ce que ça change avec le temps, ce circuit?
Au siècle suivant, donc à l'époque romantique, non, ça ne change pas. L'organisation du discours sur la ville reste globalement la même. Au XIXe siècle, les voyageurs suivent un parcours dans l'espace identique à celui mis en place par leurs prédécesseurs.
Mmh.
Aussi, même bon, si certains souhaitent bien sûr découvrir la ville à leur rythme, la plupart des descriptions commencent par Saint-Marc aussi. Ils déambulent donc sur les traces de la Venise du Moyen-Âge. Il visite le palais des Doges qui héberge à l'époque romantique, et ça c'est très important de le signaler, les collections de la bibliothèque de Saint-Marc. Puisqu'à l'époque, le bâtiment était occupé par l'administration autrichienne. Il restera jusqu'en 1924 d'ailleurs.
Ah oui, oui, oui.
Il visite les prisons, alors là c'est l'émotion extrême des prisons, de la visite des prisons. Puis il se rend ensuite à l'arsenal ou au Rialto, au détriment des quartiers populaires et excentrés dans lesquels il ne s'aventure guère.
Oui, c'est ça, les quartiers populaires, on n'y va pas.
En effet, rares sont ceux comme Théophile Gautier qui sortent des sentiers battus pour s'aventurer vers le ghetto, par exemple.
Oui, oui, il y a les deux extrêmes de Venise qui sont les quartiers populaires.
Voilà.
Hein, il y a la proximité de l'arsenal et puis il y a le ghetto de l'autre côté. Quoi.
Voilà.
C'est les deux extrêmes de Venise. Et donc, ce qui est intéressant aussi, ce sont les réactions par rapport à, en particulier par rapport à l'architecture de la ville.
Alors oui, ça c'est la seconde partie du livre qui étudie justement l'évolution du regard porté sur cette architecture vénitienne. Alors,
par exemple, le Grand Canal.
Alors le Grand Canal. Oui, mais c'est comme pour la Piazzetta, en fait. La mixité architecturale règne aussi sur le Grand Canal. Puisque la fantaisie, et l'élégance des palais baroques ou des palais renaissance côtoient d'autres édifices du Moyen-Âge. Et donc, on retrouve ce même mélange des styles, et c'est cela qui, justement, émeut et plaît surtout aux voyageurs. C'est davantage les palais classiques qui plaisent aux voyageurs du XVIIIe siècle. Les palais gothiques seront ceux qui auront la préférence des voyageurs au siècle suivant.
Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, il faut rappeler que, effectivement, le Grand Canal est un, on pourrait presque dire, c'est un boulevard longé de nombreux palais.
Alors, Tout à fait.
Je sais pas, il y en a 150, 160, un truc comme ça.
Le chiffre exact, je ne pourrais pas vous dire.
Mais... C'est de cet ordre-là, quoi. Oui. C'est extraordinaire, quoi. Oui. Donc c'est.
Oui. C'est une magnifique avenue. C'est ça.
Une avenue sur l'eau. Une avenue d'eau. Voilà. Alors, comment c'est les voyageurs. Ils rejettent le gothique. On sait pourquoi le gothique est rejeté à cette époque-là, au 18e.
Parce que je pense que le style gothique est un style qui est totalement méconnu, qui est pour la plupart barbare, entre guillemets. C'est le principal qualificatif qu'il donne quand il rentre dans la basilique. Bon, elle n'est pas gothique, elle est byzantine, mais enfin, pour eux, c'est pareil. Que ce soit la basilique Saint-Marc ou le palais des Doges, surtout, les critiques sont très, très virulentes. J'en ai relevé une, d'ailleurs.
Oui.
Alors, oui. Donc, dans mon livre, un voyageur qui est en fait un royaliste venu se réfugier pendant les années de la Révolution à Venise, qui s'appelle le comte Félix de Romain, qui écrit en 1789 concernant la basilique Saint-Marc, « Elle paraît infiniment plus ancienne qu'elle ne l'est, tant son architecture est bizarre. C'est un mélange d'architecture orientale et gothique qui m'est insupportable. » Donc, dans les récits, comme vous pouvez le voir, domine l'incompréhension et le rejet du gothique, alors que pour les deux références absolues pour ces voyageurs sont Palladio et Sansovino, donc les architectes du XVIe siècle.
Oui, bien sûr, avec les villas palladiennes sur le continent. Oui, à propos de San Marco, d'ailleurs, je lisais également dans votre livre que, je ne me rappelle plus quel est l'auteur, qui parlait de mosquée chrétienne.
Oui.
Et oui. C'est assez drôle comme expression.
Oui, ou alors on peut aussi la comparer à un chaudron, si je l'ai lu lu dans un guide du 18e.
Et pour le palais des Doges, le même auteur, je crois, parlait d'un bâtiment de style mauresque. Cette influence orientale, elle s'explique.
Oui, tout à fait. Bien sûr. Elle s'explique par les influences historiques, par le goût des artisans de la lagune, qui ont su quand même perpétuer une certaine tradition orientale. Mais le gothique plaît surtout au siècle suivant, parce que ça leur donne des images de palais de rêve, en fait.
Oui, c'est ça. Ce qui est oriental, on peut rappeler quand même que Venise a été une grande puissance qui a installé également ses comptoirs jusque dans l'Empire ottoman.
Oui, tout à fait.
Pendant une période. Donc les relations avec l'Orient, elles étaient quand même très étroites.
Et donc, au XIXe siècle, les critiques sur le gothique cèdent peu à peu la place à un regard plus ouvert de voyageurs, donc, comme je disais tout à l'heure, pour lesquels la ville incarne un Orient de légende, la ville de la poésie. Une ville dans l'architecture est aux antipodes de l'académisme des beaux-arts, en fait. Et c'est cette transition, cette progression du regard porté sur les arts qui est mise en avant dans le livre, tout autant que, de la même manière que les voyageurs du XIXe siècle savent déjà reconnaître les époques.
Oui.
Alors qu'il n'y avait pas de regard, sur le patrimoine au XVIIIe siècle. Donc,
oui, d'accord. Pas de regard éclairé.
Pas de regard éclairé, non.
Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est à partir du XIXe qu'on commence à faire ces distinguos.
Voilà, c'est ça.
Voilà, d'accord. OK. Et donc, cette architecture, à côté de cette architecture de palais, avant de revenir sur le 19e siècle, il y a toute une partie de Venise qui est formée quand même par des quartiers, on l'a dit tout à l'heure, des quartiers populaires, et qui donne donc une certaine physionomie à cette ville de Venise, en particulier les promenades à l'intérieur de Venise, donnent lieu à des descriptions qui sont assez intéressantes.
Oui, ben c'est une sensation d'oppression qui domine dans les récits du XVIIIe siècle, surtout quand ils n'ont pas peur de tomber dans l'eau ou parce que les ponts n'ont pas de parapet ou parce qu'il y, y a des rues qui donnent, même encore aujourd'hui, il y a des rues qui débouchent sur des canaux. Donc ça peut être dangereux. Ça. Et il y avait beaucoup de noyés aussi, c'est ce qu'il faut dire au cours de l'histoire de Venise, c'est que, et surtout les voyageurs.
Et oui, parce qu'il y a souvent des mousses humides sur les bords des canaux.
Oui, oui.
Et zioup.
C'est ça. Et donc les guides le signalent d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Et donc ces rues très étroites ont quelque chose d'un peu oppressant, ce qui est décrit d'ailleurs par ces voyageurs.
Oui, tout à fait.
Cette oppression de ce paysage urbain,
oui,
qui contraste d'ailleurs avec l'extérieur de Venise.
Oui.
Alors j'ai eu des choses intéressantes là-dessus.
Oui, c'est sûr que pour eux, le grand canal surpasse tout. Les ruelles et le dédale des canaux est difficilement compréhensible.
Oui, c'est ça. Il y a une opposition entre...
Oui, tout à fait.
Alors je lisais que, toujours dans votre livre, puisque c'est quand même ma référence, hein, et je lisais que l'intérieur de Venise était recroquevillé, refermé. Donc la ville était refermée sur elle-même à l'intérieur. Et ce qui était quand même très étonnant, c'est une ville qui n'a pas de fortifications.
Oui.
C'est une ville très ouverte.
Oui, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, la plupart des hommes du XVIIIe siècle le signalent. C'est une ville qui n'a jamais connu d'invasion... puisque ces abords, la protègent. En fait, la lagune est comme une sphère protectrice.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est un contraste assez surprenant,
oui,
de cette ville. Ça fait partie quand même du charme de cette ville, oui, d'avoir cet entourage de presque, ce sont presque des boulevards, enfin, c'est des promenades, des atterrés, voilà, des choses comme ça, qui entourent Venise et qui sont complètement ouverts sur la lagune.
Et le palais des Doges lui-même aussi, on peut circuler autour et s'asseoir, c'est vrai. C'est quand même particulier.
Oui, oui, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, et c'est ce qui fait vraiment la particularité de Venise. On va écouter encore un petit intervalle musical. On va peut-être d'abord l'écouter, puis après je vous dirai ce que c'est.
D'accord.
Thank you.
Bien, alors voilà, vous avez écouté la musique, une partie de la bande originale du film Mort à Venise de Luchino Visconti, avec une musique de quelqu'un qui va devenir extrêmement célèbre, en particulier pour les musiques de western. C'est en fait une musique d'Ennio Morricone. Et on reconnaît un petit peu son talent dans cette musique. Donc on va maintenant aborder donc la partie de l'eau. Là, on a parlé des pierres, on a parlé du marbre qui est très 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 présent dans les constructions vénitiennes. On sait d'où vient le marbre là d'ailleurs, non? Je sais pas. Je sais pas d'où il vient ce marbre de.
Mais surtout, vous pouvez noter la pierre d'Istrie.
Ah, la pierre d'Istrie.
Plus que le marbre, d'accord. Puisqu'elle a une véritable fonction. Surtout sur les façades des palais.
D'accord.
Elle a une fonction elle sert d'éponge pour l'humidité.
Ah d'accord.
Oui, mais bon.
Maintenant,
c'est vrai. Il est vrai que ça demande beaucoup d'entretien. Ça a toujours demandé beaucoup d'entretien, mais il y avait déjà ce point de départ de l'architecture de la ville, dans la prise de conscience d'une ville au milieu des eaux, comment la bâtir et la consolider. Il y avait ce choix de cette pierre.
Ah d'accord, oui, ok. Ah ben c'est bon à savoir ça, tiens. Alors, on ira prendre...
Ce que note d'ailleurs Hubert Rode Fleury dans son journal.
D'accord. Alors Rode Fleury, parlons-en. Ben, c'est quand même un témoin important.
Oui, voilà. C'est un peu mon préféré parce que il s'agit d'une trouvaille assez importante à laquelle je consacre un chapitre entier. Puisque donc cette enquête met en lumière des personnalités originales dont le goût est en avance sur leur temps. Et je crois que le regard que porte Hubert Rode Fleury est tout à fait inédit et original. Donc, dans le journal de voyage manuscrit qu'il rapporte d'Italie en 1805, je précise que c'est un journal en 5 volumes conservé à la BNF. Donc, 5 volumes dont un volume de dessin.
5 volumes ? Il est resté longtemps alors ?
Il a fait toutes les villes d'Italie. Et donc, 2 ou 3 mois sur cet architecte. C'est un architecte parisien, prix de Rome en 1802, élève de Jean-Louis-Nicolas Durand à l'École Polytechnique, et qui prône la simplicité en architecture. Il est à maintes reprises dans son journal, surtout à Venise, admiratif face aux édifices gothiques et fortement critique, justement, vis-à-vis des palais de Sansovino, enfin, des constructions du XVIe siècle. Et les richesses présentes dans son journal ont permis de poser la question de la réception et des nouveaux débats soulevés autour du gothique, justement,
oui,
par une nouvelle génération d'architectes français, dont il est une figure importante, puisque certains remettent désormais en cause la primauté carrément du séjour romain par rapport à d'autres grandes villes d'Italie. Donc il décide de quitter Rome pour découvrir la Toscane. D'abord, donc, il consacre plusieurs semaines de son séjour à Florence, ensuite Pise, Sienne, etc. Puis ensuite, il gagne la Vénétie, et là, il découvre l'architecture gothique de Venise. Et il est fasciné, au point de se faire mener plusieurs fois en gondole sur le Grand Canal pour faire des dessins. Donc, à une époque où tout le monde déteste à peu près, le gothique n'est pas encore entré dans les mœurs ni dans le goût des hommes du siècle, lui, il est complètement à l'opposé.
D'accord.
Donc, c'était ce que je voulais montrer dans ce livre, en fait.
D'accord. Et est-ce que ça, on sent dans son livre, c'est un manuscrit ?
Oui, c'est un manuscrit.
Qui n'a jamais été édité ?
Jamais. J'espère pouvoir un jour m'en occuper, si je peux.
Ah oui. Voilà. Et est-ce qu'à travers son journal, on sent que finalement il est en train d'évoquer ce qui va faire les grandes émotions des romantiques? Est-ce que quand il s'exprime, il a ce type de jugement sur les monuments que vont avoir les romantiques avec tout ce qui entoure leur jugement sur le gothique?
Pas encore tout à fait.
C'est pas encore tout à fait ça.
Il juge que, par exemple, le véritable barbare, pour lui, c'est Michel-Ange. Et c'est pas du tout l'architecture gothique, qui, pour lui, est une ressource en matière d'innovation architecturale. Mm-hmm. Donc, il pense, en prenant des croquis, toutes sortes de croquis, qu'il pourra s'en servir plus tard. Mais il s'en est pas servi, en fait, dans son œuvre. À son retour d'Italie, il a continué à faire une architecture totalement classique.
D'accord.
En suivant les préceptes de son maître, qui était Durand. Il s'en est pas servi. Voilà.
Quel dommage.
C'est dommage, oui.
Il n'a absolument rien fait de ce travail.
Il ne s'en est pas servi. Il a travaillé sur des casernes, je crois, à Paris. Il y a plusieurs édifices sur lesquels il a travaillé. Des casernes qui sont maintenant qui servent aux sapeurs-pompiers, je crois. Enfin, je ne sais plus dans quel quartier. Mais non, il ne s'est pas du tout servi de tout ce qu'il a ramené. C'est ça qui est très dommage. Et qui a servi, par contre, à son petit-fils, Georges Auro de Fleury, qui, lui, a accompli le même voyage. Et qui a travaillé, et qui a suivi les pas de son grand-père.
Ah, d'accord. Mmh. Et alors, sur le rapport avec les romantiques, est-ce que les romantiques ont eu connaissance de ces travaux ?
Non, je ne pense pas.
Non. Personne n'en a parlé dans les...
Je n'ai pas trouvé d'écho, non. À part dans les journaux de voyage et les récits de ses descendants, c'est tout.
C'est tout. Ils savaient pas les romantiques ne savaient pas qu'ils avaient un précurseur.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est peut-être même pas le seul, hein. Il y en a peut-être d'autres.
Oui.
Oui. Il y en a peut-être d'autres, puisqu'il y a un historien qui s'appelle Georges Sérou d'Aguincourt, qui fait paraître, vous l'avez dans mon livre, qui fait paraître une histoire sur les monuments, une histoire de l'art des monuments. Enfin, il a fait paraître, il a mis beaucoup de temps pour pouvoir déjà la terminer. Et il a été en contact, justement, à Rome avec Hubert Rouault de Fleury.
D'accord.
Voilà. Et lui aussi parle du gothique d'une manière un peu différente.
Ah oui. Ben, c'est intéressant, ça, cette découverte intéressante. Écoutez, j'espère que vous réussirez à le faire éditer, puis que vous viendrez en parler.
Ben, on verra. Il y a encore ça et d'autres projets.
Alors, on va maintenant aborder la partie qui concerne l'eau, l'évolution du regard porté sur l'eau. Puisque jusque-là, l'eau était plutôt inquiétante.
Alors oui, tout à fait. À côté des descriptions consacrées aux architectures et aux œuvres d'art, la lagune occupe, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, une place sans cesse grandissante dans les récits de voyage. Elle était auparavant décrite comme destructrice et dangereuse pour les voyageurs des Lumières, qui évoquent très souvent la crainte de l'inondation, des épidémies et de l'engloutissement. Puis elle se révèle, au siècle suivant, comme un lieu propice à la féerie. Elle devient, sous la plume des romantiques, une porte ouverte sur l'imaginaire. Et en cela, Georges Sand est sans doute celle qui, dans ses lettres d'un voyageur, décrit avec le plus de poésie le mystère et la beauté des eaux lagunaires. Je rappelle qu'elle séjourne seule à Venise, après le départ de Musset, à la fin du mois de mars 1834. Mmh. Donc elle méritait, elle aussi, rien que pour la beauté des citations, une place dans ce livre. Mais en contrepoint à la Venise nocturne et féerique que j'évoque en troisième partie, on retrouve des descriptions tragiques et teintées d'une immense tristesse de la part des voyageurs qui, eux, découvrent la ville en plein jour. Donc, le spectacle de la ville en décrépitude,
voilà, oui.
Dépossédée de son gouvernement et de ses institutions donc depuis la chute de la République, offre désormais au regard européen l'image d'une ville en déclin, puisque la misère du présent... Tel est bien ce que les voyageurs constatent en parcourant le Grand Canal. Car pour eux, les palais sont les miroirs les plus parlants de la ruine de l'ancienne Reine des Mers. Alors là, j'ai une cohorte de voyageurs qui, au XIXe siècle, se viennent pleurer sur...
Ah oui.
Et s'émouvoir, justement, de l'état désastreux dans lequel se trouvent certains palais. Puisqu'ils seront, pour Cador, par exemple, restaurés qu'à partir de la fin du XIXe siècle.
Oui.
Voilà.
Quel dommage.
Pourtant, au beau milieu de tous ces discours de tristesse, le paysage urbain de Venise, lui, évolue.
Ouais.
Non seulement par un processus de forte réduction de son patrimoine monumental et artistique, mais aussi par une volonté continue de nouveauté et d'enrichissement progressif. Aussi, la ville a continué de vivre et construire et projeter, bien que les étrangers notent dès la période romantique sa disparition imminente. Donc c'est ce contraste aussi qui est très important. Et donc l'émergence du thermalisme dans le centre historique de la ville à partir des années 1830 agit comme l'élément déclencheur d'un processus de revitalisation de l'image de la ville et de l'image de la mer.
D'accord. Donc on a un changement de point de vue important entre le 18e et le 19e siècle.
Tout à fait.
C'est ça, on change totalement de regard. Et c'est vrai que ce tournant, il est marqué par, à Venise, un état non seulement politique, hein, mais un état presque social en difficulté. J'ai lu dans votre livre, descriptions de maisons décrépies, de palais décrépits.
Oui, sur le point de tomber en ruine même.
Voilà, sur le point de tomber en ruine.
Tout à fait.
Un manque total d'entretien.
Oui.
C'est ça, quoi.
Même si les Autrichiens ont essayé de faire quelque chose, mais ils détruisaient plus qu'ils ne restauraient, en fait. C'est ça le problème.
Et quand on construit au XIXe siècle, où est-ce qu'on construit à Venise? Parce que c'est un territoire qui est quand même pas très, très grand. Ils ne gagnent pas sur l'eau.
Si. Non, pas trop, mais
pas
c'est
beaucoup.
Surtout que des avenues ont été percées, des quartiers ont été quand même détruits, certains bâtiments ont été détruits puisqu'ils tombaient presque en ruine. Donc. Mais les étrangers ne notent pas tous ces changements. Il y a ensuite l'avènement de l'éclairage au gaz, etc. Ils ne notent pas tous ces changements, sauf Ruskin qui lui est dévié. Qui déteste justement que la modernité commence à prendre effet sur la ville.
Oui, parce que, mis à part l'extrême pointe de Castello, qui est un peu. C'est Bonaparte qui a un peu. Qui est à l'origine un petit peu du jardin.
Oui, c'est ça.
Des giardini.
Oui, ça fait.
Voilà.
Oui.
Et donc, il y a là. On gagne un petit peu, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'autre où on gagne sur la lagune.
Oui, il n'y a pas grand-chose d'autre.
Il n'y a pas grand-chose d'autre.
Et juste que ça permet d'avoir un petit coin de verdure supplémentaire.
Voilà.
Avec le Lido.
Oui, oui, c'est ça, voilà. Et avec ces rues. Alors là aussi, c'est encore Bonaparte qui a asséché un des canaux importants pour en faire une rue qui est la plus grande, la plus large, je crois, de Venise. La Via Garibaldi.
Voilà, tout à fait.
Qui était donc un canal qui l'a fait assécher.
Oui.
Donc, une ville en décrépitude, et la Renaissance, donc au tournant des années 50, 1850, avec donc un regain du tourisme à partir de ce moment-là.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est là que s'ouvre la partie la plus surprenante pour le lecteur, puisqu'elle concerne l'air balnéaire et thermal à Venise.
Ah, ça va être passionnant. On va écouter Monteverdi, un très beau duo qui s'appelle Purtimiro, avec Noria Rial et surtout Philippe Jaroussky. C'est un extrait de l'opéra Le couronnement de Poppée. Voilà un très très beau duo qui nous a bercés. Et nous allons donc revenir au rapport entre l'eau et Venise avec cette découverte et cette mise en avant intéressante que vous avez pu faire, Laetitia Leventiste, dans votre livre sur le regard des voyageurs français sur Venise. C'est donc la mise en place à Venise d'une véritable station thermale, station oui. balnéaire. Alors, ça, on ne s'y attendait pas.
Voilà, c'est un aspect totalement méconnu de l'histoire vénitienne. Dans les premières décennies du XIXe siècle, une connaissance et un intérêt scientifique neufs se font jour dans les recherches des savants et médecins qui cherchent dans le climat des rivages de la mer des solutions thérapeutiques au traitement de la tuberculose. En effet, vous n'ignorez sans doute pas que la tuberculose demeure à cette époque un véritable fléau que l'on tente de combattre par tous les moyens. Aussi, l'essor du thermalisme et de la climatologie biologique, bon, qu'il s'agisse des cures marines ou en haute montagne, représente à l'époque pour le corps médical un véritable espoir. Notons aussi qu'en l'absence d'antibiotiques et d'antipyrétiques puissants, les bains font encore figure de médecine, médication générale. Donc, les bienfaits de la cure vénitienne dans le traitement de ce qu'on appelait la phtisie pulmonaire à l'époque, et dans de nombreuses autres affections, révélées par la littérature médicale européenne et vantées par les guides de voyage de l'époque, attirent un nombre très important de malades chaque année, dont le voyage vers la ville est facilité par la ligne de chemin de fer établie en 1846. Et donc, afin de promouvoir le développement touristique de la ville, l'administration autrichienne encouragea l'installation de structures balnéaires dans les principaux hôtels du centre historique de Venise, donc, c'est-à-dire dans les canaux.
Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire.
Et apporta également son soutien aux nombreuses propositions issues de particuliers qui s'étaient mis dans la course aussi, qui étaient désireux de participer à ce nouvel engouement.
Alors, ces installations, elles se présentent comment ? Ça soigne donc les problèmes pulmonaires. Ce qui est déjà quand même assez étrange dans une cité qui est quand même un peu humide, quoi. Il faut dire les choses. Oui. Mais donc, ces installations, un peu partout, donc dans le Grand Canal, mais ailleurs aussi. Alors, comment ça se présente ? Racontez-nous ça.
On a tout d'abord le cas d'un établissement de bains flottants. Le plus important, c'était celui du docteur Rima, qui était ancré dans le bassin de Saint-Marc à partir de 1833. Il n'existe très peu de traces en images de ce bâtiment, de cette structure. Les rares photographies et cartes postales que j'ai pu consulter, je les ai mis dans mon livre, ainsi que les gravures et les dessins. Alors, il s'agissait d'une immense structure de bois de 123 mètres sur 17 mètres de large.
Ah oui, c'était pareil.
Dotée d'alcôves, de vestiaires, cabines pour bains froids, doux, chauds, tièdes, médicamenteux, etc. Ainsi que d'un ample bassin central pour la baignade. Donc. Et pour ceux qui souhaitaient disposer d'une plus grande liberté de mouvement et d'une plus grande intimité, pour les femmes notamment, le docteur Rima avait imaginé, il proposait à ses patients l'utilisation de petites gondolettes munies d'une vasque, dont le fond était recouvert d'une armature en fer pour la nage et l'hydromassage dans les canaux. Donc là, la gondole vénitienne devait elle aussi participer à la thérapie des patients, en fait, en quelque sorte. Et la thalassothérapie à Venise, comme vous en avez parlé, était particulièrement indiquée aussi dans le traitement du rachitisme. Alors là, ne me demandez pas pourquoi. Des paralysies.
Non, c'est pas une thèse de médecine que
vous avez faite. Des paralysies, non, des rhumatismes, mais des pathologies du système cutané, etc. Névrose, hypochondrie, enfin bref.
Des choses pas très agréables.
Non, mais on pouvait aussi compléter la cure par des décoctions d'algues et par la prise quotidienne d'eau de mer et d'eau de la lagune en boisson.
Alors ça m'a soufflé, ça. Parce que quand on connaît la qualité de l'eau de la lagune, voilà. Quand on la voit, ne serait-ce que ça, on a des doutes quand même sur les qualités thérapeutiques.
Tout à fait. On en parlera tout à l'heure, mais la pratique du bain dans les canaux peut aujourd'hui faire sourire, donc c'est ça. Or, celle-ci correspondait bel et bien aux croyances de la médecine du temps. On pensait en effet que les eaux avaient une influence directe sur le corps, sur le mécanisme physiologique qu'il habite avec ses deux grands liquides que sont le sang et la lymphe. Donc l'usage externe et interne de l'eau, un régime de vie sain, l'exercice physique et le contact avec la nature avaient pour but de rendre le corps plus robuste, en fait.
C'est extraordinaire, ça. Cette histoire d'installation thermale, moi j'avoue que j'en avais jamais entendu parler.
Mais c'est toute une thérapie qui a été développée à l'époque autour des ressources naturelles de la ville, donc dans cet établissement, mais aussi dans les nombreuses structures rattachées aux grands hôtels de la ville. Et cela a été implanté le long du Grand Canal, dans les secteurs de Saint-Marc ou du Rialto. Et puis, il y avait aussi la concurrence directe des établissements de bains flottants issus de l'investissement de particuliers.
D'accord.
Voilà.
Et donc, il y a des installations comme ça à peu près partout.
On a une carte que j'ai reproduite dans mon livre, très précise, où on voit que oui, il y a plusieurs... ils sont tous centrés dans le cœur des canaux, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est entre le Grand Canal, la douane, la Piazzetta. Oui. C'est tout regroupé là.
C'est ça.
Ça devait faire un sacré paysage, quand même.
Oui.
Vous avouerez que ça ne devait pas être, ça devait pas être bien, bien, bien terrible. Et moi, j'ai quand même des doutes sur la thérapeutique et sur la... Et sur la guérison des gens qui sont venus là.
Justement, c'est tout le problème. On a encore assez peu d'éléments qui nous permettent d'en savoir plus. Et ma recherche n'est qu'au début, en fait. Je compte continuer, bien sûr. il faudrait trouver d'ailleurs d'autres témoignages. J'en ai rassemblé déjà beaucoup, mais il en manque encore. Et ainsi que des témoignages iconographiques de ces structures, pour voir à quoi elles ressemblaient, en fait.
Parce oui, peut-être voilà. dans des archives privées, des établissements.
Oui, alors tout est à faire encore sur cette question.
Alors là, pour trouver, ça va être assez compliqué. Et donc, il y a les gondolettes et il y a les sirènes qui permettent d'aller directement dans l'eau.
Voilà, pour pouvoir se baigner à l'écart des regards.
Allez, voilà. Je trouve ça merveilleux. Allez, une petite musique, allez, un peu entraînante. Vivaldi, concerto pour violon en la mineure. Alors, il nous reste quelques minutes avec Laetitia Leventis sur Venise entre 1750 et 1850, le regard des voyageurs. On évoquait l'ère balnéaire et thermale. Alors, comment ça évolue, ce thermalisme?
Mais dans les dernières décennies du siècle, les structures balnéaires disparurent lentement du centre historique pour s'implanter sur la plage du Lido. Où elles bénéficièrent là aussi d'un large succès, puisque c'est sur cet espace de terre qui était jusqu'alors désert et inexploité que furent mis au point des projets de plus grande ampleur, comme l'établissement de bains immense bâti en 1857 sous l'impulsion de l'entrepreneur Giovanni Busetto di Fisola, qui a participé à la naissance de cette ville balnéaire totale. Et là, qui était construit dans le but de satisfaire les désirs de la clientèle. Mmh. Puis, c'est sur ce même emplacement que commença à la fin du siècle la saison dorée des grands hôtels de luxe, dont le plus célèbre d'entre eux, voilà, ouais. Le Grand Hôtel des Bains, qui sert de décor à la nouvelle La Mort à Venise.
Voilà, c'est ça, d'accord. Donc, on a là un petit peu la fin de la station thermale de Venise.
Voilà.
on évitera peut-être, est-ce que vous avez des hypothèses sur cette fin?
Alors,
moi, j'en ai une. Hein.
Il faut tout de même souligner qu'il s'agit, bon, déjà d'un bouleversement spectaculaire. apportée par le tourisme balnéaire dans le regard sur la ville, mais de plus amples recherches sont encore à mener sur cette thématique, sur lesquelles il existe bien sûr une vaste part d'ombre, puisque la plupart des documents ont hélas disparu aux archives municipales. Est-ce que ce phénomène coïncide avec la disparition des structures elles-mêmes ? Ça, il est encore trop tôt pour l'affirmer. Mais je pense que parmi les éléments déterminants qui ont pu jouer un rôle, on peut d'abord prendre en compte le contexte européen marqué par l'émergence de recherches plus précises sur les eaux et leur pollution, qui voit notamment la découverte dans le dernier tiers du siècle de la toxicité, par exemple, de certains mollusques, comme les huîtres, qui sont désormais soupçonnées d'être de vecteurs de la fièvre typhoïde. Aussi, la question de l'éventualité d'une expertise scientifique des pollutions en Méditerranée est à prendre en compte. Puis, les activités productives de la ville avaient certainement un impact sur l'environnement, puisqu'à la fin du siècle, Venise possède, rappelons-le, son propre port commercial, un arsenal militaire et plusieurs établissements industriels modernes.
Ah oui, donc...
Bien sûr, ça devait avoir un impact. Et le rejet à la mer des déchets de fabrique aussi.
Oui, en particulier oui, voilà. L'industrie du verre et des choses comme
donc
ça.
Je pense qu'à l'époque de l'âge d'or des bains, dont je vous ai parlé, les baigneurs suivaient confiants les injonctions des médecins et n'avaient peut-être pas conscience des risques et dangers de cette pollution.
C'est à un moment donné, donc je pense que les Vénitiens ont dû se rendre compte qu'il y avait beaucoup de morts.
C'est possible.
Ils ont arrêté de faire cette activité. Bon, ben écoutez, Laetitia Leventis, je vous remercie infiniment de votre présence. C'était très passionnant cette.
Merci à vous.
Cette dernière partie là sur la balnéothérapie à Venise, vraiment ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y a des Vénitiens actuellement qui ne s'en souviennent pas et qui ne le savent même pas. Donc voilà, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15 ou 19h en alternance sur 88.1. Également sur le site de radiozinzinex.org et en replay et en téléchargement dans la rubrique Les émissions Mare Nostrum où vous avez toutes les émissions de 2018. Vous trouverez également trois liens. Un lien vers une messagerie, vous pouvez me laisser des messages. Un lien vers la page Facebook, Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, où on annonce les émissions et on donne quelques informations supplémentaires. Et puis, il y a un troisième lien pour quelques mois, c'est le lien vers un sondage sur notre radio, parce qu'on a envie de savoir qui sont nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs critiques. Et donc, vous allez sur le site, vous cliquez, et puis vous avez la possibilité de remplir ce sondage en ligne. Voilà, à la prochaine pour le numéro 35 de Mare Nostrum. Au revoir.
Au revoir. Thank you.